Wunderparlement.
Wunderparlement.
Yes, do you have my voice?
Wunderparlament.
Apprendre à faire de la radio.
Il presidente.
Uccia radio.
Apprendi a fare radio.
Leer radio maken.
Chaque mois au Parlement européen à Strasbourg.
En el Parlamento europeo de Strasburgo.
Parlamencie europejskim w Strasburgu. Czekamy na ciebie.
In Strasbourg.
Toi aussi, tu peux venir.
Bonjour tout le monde, c'est Anna pour Radio WN et Wunderparlament. Nous sommes le 28 février 2024 et nous sommes au studio avec Monsieur Mounir Satouri, l'eurodéputé du groupe des Verts, et également avec mon collègue Jean-Luc Vertenschlag.
Hello, welcome to the
Wunderparlament.
Sans plus tarder, la parole au rapporteur.
Et on va discuter du futur de l'Europe.
Ah ben maintenant, c'est l'interview.
Et aujourd'hui, on va parler sur un sujet qui est très intéressant, notamment pour des étudiants. Et on va aborder le parcours personnel de M. Satouri. Alors, restez chez nous. Je voudrais commencer par la pétition qui vise à interdire des stages non rémunérés, laquelle on peut maintenant trouver sur le site web de Groupe Verte. Mon première question est pourquoi cette pétition? Parce que, si je ne me trompe pas, le juin 2023, la directive qui devrait interdire des stages non rémunérés s'est déjà votée. Alors pourquoi il y a besoin de pétition?
Alors, je vais apporter une nuance à ce que vous avez dit. Il n'y a pas de directive pour interdire les stages non rémunérés. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette pétition existe. Ah, on a eu un rapport législatif, donc une initiative des députés que nous avons portée, nous écolos. Et ce texte demande à la Commission d'inscrire dans la programmation du travail du Parlement et des institutions européennes une directive qui interdise les stages non rémunérés. Pour l'instant, ça fait maintenant 8 mois que la résolution a été votée au Parlement. Cette résolution, elle demande une directive et que la Commission n'a pas bougé. Et nous avions lancé cette pétition au moment où nous discutions du texte de la résolution pour justement alerter, informer les jeunes de cet enjeu. Moi, je trouve anormal que des jeunes continuent à faire plusieurs mois de stage, la plupart du temps, sauf peut-être les premières semaines, occupent un vrai poste dans les entreprises, enfin font le boulot d'un salarié sans être rémunéré. C'est pas normal. Chaque travail mérite salaire et mérite salaire digne. Et cette situation, elle est d'autant plus scandaleuse que depuis la crise de la Covid de 2019, plein d'indicateurs, des images, nous prouvent que la précarité des jeunes est quelque chose d'important au sein de l'Union européenne. Moi, je suis élu député européen français. Jamais nous n'avons vu autant de jeunes faire la queue devant les Restos du Cœur ou les associations caritatives pour avoir un colis alimentaire pour pouvoir se nourrir. Quand il y a des enquêtes d'opinion, beaucoup de jeunes disent qu'ils sautent un repas, ils ne mangent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de manger. Et c'est scandaleux cette situation. L'interdiction des stages non rémunérés n'est pas la réponse absolue à toute la précarité que vivent les jeunes. Mais c'est une réponse. C'est une réponse. À partir du moment où un jeune, pendant ses études ou à la fin de ses études, intègre une entreprise et qu'il apporte une véritable contribution au développement de cette entreprise, cette quantité de travail qu'il amène doit être rémunérée.
Et pourquoi pensez-vous que la Commission européenne n'a pas encore agi? Est-ce qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui bloque
Je ne peux pas répondre à cette question. Il faudra peut-être poser la question à la Commission et au commissaire Schmitt, en l'occurrence, qui est en charge des questions d'emploi et d'affaires sociales. Nous n'avons pas chômé à la Commission emploi affaires sociales du Parlement. On a travaillé sur plein de sujets. On a travaillé sur une directive salaire minimum, on a travaillé sur une directive transparence salariale pour obtenir l'égalité salariale femmes-hommes, on a travaillé sur une directive pour réglementer le travail des plateformes. On a fait plein de choses. Ce sujet-là n'est pas aujourd'hui un sujet à l'ordre du jour de la Commission. Je pense très vraisemblablement qu'il ne le sera pas jusqu'à la fin de sa mandature. Donc l'enjeu, c'est vraiment au début de la future législature en 2024, après l'élection de juin. Et donc moi je souhaite que cette pétition que nous avions lancée avec un objectif à l'époque d'atteindre 10 000 signatures, il y en a à peu près plus de 7 600, donc on n'est pas très loin de l'objectif. Moi je veux que ce sujet, et je vous remercie de m'interroger là-dessus, je veux que ce sujet soit un sujet de débat pendant la campagne. Il faut que durant cette campagne électorale, la question de la précarité des jeunes, le devoir que nous avons collectivement dans nos responsabilités politiques d'offrir à la jeunesse européenne les moyens de son autonomie. Ce débat très particulier sur les stages non rémunérés, il faut que ce soit un enjeu électoral. Donc moi, je souhaite que les jeunes le portent. Je veux être dépossédé de cette cause. Il faut que ce soit la cause des jeunes, que des collectifs partout en Europe interpellent tous les candidats, leur demandent de s'engager, y compris par écrit, à demain au sein du Parlement européen, nous travaillerons à faire advenir une directive forte qui réglemente les stages des jeunes et les stages non rémunérés. Je veux que ce dossier-là nous dépasse les écologistes, dépasse ma petite personne, parce que c'est vraiment un enjeu de société.
Je voudrais maintenant un peu donner plus clarité à notre auditeur qui savent, d'accord, il y a cette directive planifiée qui interdit des stages non rémunérés. Concrètement, est-ce que c'est tous les stages ou ça concerne, est-ce qu'il y a des exceptions? Parce que, par exemple, j'ai à l'esprit des cas d'étudiants à lycée ou collège qui ne sont pas encore 18 ans. Est-ce que ça va concerner aussi des stages pour eux?
Ça va dépendre. Évidemment, moi je fais la différence, un stage de découverte de métier de 4 jours et un stage de fin d'études de master de 6 mois. C'est pas la même chose. Et l'apport du jeune stagiaire ou de la jeune stagiaire à la productivité de l'entreprise, à sa rentabilité, n'est pas le même. Donc oui, ça sera pas pour tous les stages, dans n'importe quelles conditions, etc. Mais c'est tout l'enjeu d'un texte et d'un débat. Moi, j'ai pas l'habitude d'écrire les directives européennes tout seul. Je les écris à partir de la manière dont je pense les choses. Je l'écris aussi avec mes collègues des autres groupes politiques. Je les écris en écoutant les associations et les fédérations qui représentent les jeunes, les syndicats européens, y compris les syndicats d'employeurs. On trouvera la formule qui réponde au cas particulier. Mais la règle, c'est tu peux pas, quand tu es une entreprise, enchaîner tous les 6 mois ou tous les ans des stagiaires que tu ne gardes pas, qui n'ont pas de statut, que tu ne rémunères pas, alors qu'ils participent à l'enrichissement de ton entreprise. Toutes les entreprises ne sont pas dans le même cas. Il y en a vraiment qui jouent le jeu d'accueillir les jeunes pour qu'il ait l'opportunité de finaliser son diplôme, parce que les stages peuvent être obligatoires. Et ça, qui joue le jeu d'un engagement sociétal dans l'entreprise. Mais on a d'autres dont le fait d'accueillir des stagiaires est un modèle économique. Moi, on m'a rapporté, et c'est des syndicats très sérieux et engagés, que dans certaines entreprises, il y a 2-3 salariés, et les 10 autres, c'est des stagiaires. Et on les enchaîne les uns derrière les autres, et ça, c'est pas normal. Donc il faut mettre un stop, un arrêt à ces abus. Et de l'autre côté, la précarité des jeunes est une réalité. Et beaucoup de jeunes commencent leur vie professionnelle par des stages, et parfois par 2-3 stages d'affilée. Il faut que cette période-là ne soit pas synonyme de précarité, de pauvreté, de queue devant les associations pour recueillir les colis alimentaires ou de repas non pris. Il y a une véritable situation sociale et la question de l'autonomie des jeunes et de leur juste rémunération est un sujet. Et après, on saura faire, on sait faire dans cette maison, on sait produire des textes de loi qui font avancer un certain nombre de causes en concertation entre groupes dans la maison Parlement européen, mais aussi avec les acteurs de la société.
Moi, en tant qu'étudiant, j'apprécie beaucoup cet effort. J'aimerais être payée pour mon travail.
Pour votre contribution?
Oui, pour mon contribution à l'entreprise. Mais je peux imaginer qu'il y a aussi des voix critiques et je peux imaginer que ça peut venir des entreprises. Parfois, ils n'ont pas de financement suffisant pour payer des stagiaires et même s'ils veulent accueillir des stagiaires, mais maintenant, si c'est interdit d'avoir des stagiaires non rémunérés, ça va leur empêcher d'accueillir des stagiaires.
Mais
est-ce que vous avez la réponse?
Je connais personne aujourd'hui qui bénéficie d'un service gratuitement qui est content demain de le payer. C'est normal. Mais moi, mon job comme député, c'est l'intérêt général et pas l'intérêt particulier d'une entreprise qui profite du système et exploite les jeunes. Ben c'est oui, ça fera des mécontents. Mais ça, c'est pas grave. Notre rôle, à nous, les élus du peuple, c'est de produire des lois qui défendent l'intérêt général. Oui, ça fâchera certains, mais c'est pas grave. C'est comme tous les progrès sociaux. Hein. Lorsqu'on a construit la directive salaire minimum, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord et qui étaient contre et qui ont dit que ça serait un scandale. Cette directive est maintenant votée. Bientôt, elle sera transposée dans les droits nationaux européens et ça sera un progrès social. C'est l'histoire des conquêtes sociales. Au moment où on les arrache et quand elles se mettent en place, ça fait hurler, ça fait parler certains sur certaines chaînes. C'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avancer. La cause de soutien aux jeunes est plus importante que les râleries de certains lobbies.
La question un peu complémentaire, parce que maintenant, si je ne me trompe pas, en France, la stage non rémunérée peut durer 2 mois. Et après, il faut que la stage sera rémunérée. Ça suffira comme ça, ou objectif, comment le dire,
un modèle.
Oui, la modèle, oui.
Alors, l'exemple français, il faut le regarder avec ses avantages et ses inconvénients. Vous avez raison, la législation française impose pour les stages qui durent de plus de 2 mois, d'être rémunérés. Mais avec une rémunération très faible. Autour, je ne veux pas dire de bêtises, mais vos auditrices et auditeurs iront vérifier. Je crois que c'est 4,15 euros de l'heure. Aujourd'hui, le SMIG en France, le salaire minimum, est à 11 euros. Donc, on est sur un droit à rémunération garanti pour les stages à partir de 2 mois, mais avec une rémunération qui est 3 fois en dessous du salaire minimum. Donc, regardons ce qui est positif, où on impose une généralisation de la rémunération des stages, mais ne coinçons pas non plus tous les jeunes européens à des rémunérations aussi basses. Mon ambition, c'est pas juste qu'ils soient rémunérés, mais qu'ils soient dignement rémunérés. Les salaires, pour moi, doivent nous apporter une capacité de vivre dans la dignité pour pouvoir se nourrir correctement et se loger correctement. Et quand on voit le niveau des loyers dans un certain nombre de capitales ou de métropoles européennes, être rémunéré à 3 fois moins que les salaires minimums de chacun de nos États, je ne pense pas qu'on aura répondu à toutes les difficultés que vivent les jeunes. Donc il y a un avantage qui est généralisé au-delà de 2 mois, la rémunération, mais attention à ce qu'elle ne soit pas aussi basse. Je précise, en France, les employeurs peuvent rémunérer au-delà des 4,15 euros. Mais les réductions sociales, en termes de cotisation sociale sur l'indemnité de stage, vient augmenter le coût. Et du coup, on a créé une trappe à bas rémunération de stagiaires, où la plupart des stagiaires sont payés moins de 500 euros par mois. Regardons cet exemple, ça peut être un début d'inspiration, mais il faut vraiment qu'on élargisse la concertation et qu'on regarde ce qui se passe ailleurs dans les pays européens pour avoir une législation la mieux disante socialement. Ça, c'est une règle. Moi, je suis un député écolo, les écologistes se battent depuis des années pour, à chaque fois qu'on doit prendre une décision, pour une règle mieux disante en termes environnementaux. Mais on a compris, je pense, depuis les Gilets jaunes en France. Les slogans qui sont venus du terrain, hein, on ne les a pas écrits. Fin du mois, fin du monde, même combat. Que cette règle sur le mieux-disant écologique doit aussi être accompagnée par une règle de mieux-disant social. Et donc, construisons à partir de plein d'exemples la meilleure législation.
La dernière question de cette partie concernant la pétition, c'est est-ce que vous avez l'expérience personnelle avec être mal payé pendant le stage?
Oui, moi j'ai connu la précarité, pas en termes de stagiaire, mais en tant que salarié. Moi j'ai fini mes études et ma formation en 2000. En 97 en France, quand le gouvernement Jospin était arrivé en responsabilité, ils avaient inventé un dispositif qui s'appelait les emplois jeunes. Donc quand vous aviez moins de 26 ans et que vous étiez recruté par une collectivité territoriale ou une association, il y avait des aides pour la collectivité de les associations, pour prendre une charge, une grande partie de votre salaire, mais au niveau du SMIC. Et donc, comme j'avais moins de 26 ans au moment où j'ai commencé à chercher un boulot et que j'avais fait le choix de bosser dans le domaine du social et de l'insertion professionnelle, ben j'étais rémunéré au SMIG, alors que je faisais le même boulot que des collègues dans le bureau d'à côté, qui eux étaient rémunérés 2,5 fois le salaire. Bon, je suis resté sous ce statut pendant 1 an et demi, ça m'a fait mon expérience, et après j'ai été recruté dans une autre structure à un meilleur salaire, etc. Donc, j'avais un contrat de travail, mais quelque part, j'étais rémunéré comme si j'étais un stagiaire. J'ai connu la précarité et ça a certainement orienté et mes choix professionnels et mes engagements politiques. Mais on n'est pas obligé, je le dis aux autres collègues qui n'ont pas connu cette précarité, on n'est pas obligé de l'avoir vécu pour pouvoir s'engager à le porter. Moi, je souhaite que cette ambition de la directive sur les salaires soit portée par un maximum de députés, y compris ceux qui ont eu la chance de ne pas connaître la précarité, mais qui, s'ils observaient un peu autour d'eux, leurs enfants, leurs neveux, leurs nièces, peuvent voir qu'aujourd'hui, la jeunesse européenne vit des moments trop durs et elle mérite qu'on leur offre cette protection sociale.
Avant qu'on va changer le sujet, il va suivre la cours post-musical. Alors, est-ce que vous avez la chanson préférée?
J'ai réfléchi tout à l'heure, elle me dit que j'ai déjà oublié. Vous allez m'aider, vous l'avez vu.
Tracy Chapman.
Voilà.
Don't you know, talking about a revolution sounds
Don't you know we're talking about a revolution? It sounds like a whisper while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know talking about a revolution sounds dismal? Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's there? Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn, talking about the revolution. Cause finally the tables are starting to turn, talking about the revolution. About a revolution. Oh, I've been standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know talking about a revolution sounds about a revolution, oh, oh no. Talking about a revolution, oh, oh no. Talking about a revolution, oh, oh no.
Pour rebondir sur les stages non rémunérés, est-ce que sur ce genre de combat contre la précarité des jeunes, est-ce qu'on peut réunir, Mounir Satouri, d'autres groupes parlementaires, peut-être au-delà de la gauche? Est-ce que la droite, c'est-à-dire le PPE, voire même l'extrême droite avec ces deux groupes parlementaires, peuvent être ensemble avec vous pour revendiquer une meilleure rémunération des jeunes?
Je ne vais pas vous parler d'avenir parce que je ne le connais pas, mais je vais vous parler à partir de ce que j'ai vécu pendant 5 ans. On arrive, et on n'a pas d'autre choix d'ailleurs, à réunir au-delà des progressistes, je vais les appeler comme ça, au-delà des groupes Left, SND, Green. Quand on n'y arrive pas, en fait, on ne gagne pas. Parce que ces trois groupes ne suffisent pas à faire majorité. Donc quand on arrive sur les législations sociales à avancer, c'est parce qu'on a réussi à trouver un compromis avec les libéraux de Renew et avec le PPE. L'extrême droite, je n'ai jamais vu. D'abord, je ne les ai jamais vus travailler les dossiers. Vous savez, vous, comment ça se passe. Mais je le précise pour les auditeurs. Quand un groupe est leader sur un texte et qu'il nomme le rapporteur, les autres groupes nomment des shadow rapporteurs et constituent une équipe de travail et de négociation pour aboutir à un texte et dégager une majorité pour le porter. Les élus des groupes ID, je les ai quasiment jamais vus. Ils ne viennent jamais. Et ils ont un argument efficace pour justifier leur non-travail. Ce n'est pas à l'Europe de s'occuper de ça. C'est aux États membres de s'en occuper. L'Europe n'a pas à se mêler de ce que la France doit décider. Et donc, on ne les voit pas contribuer par des amendements, par des réunions de travail. On essaie de se convaincre les uns les autres. Et à la fin, ils viennent dire que ce n'est pas de la compétence. Moi, ma collègue qui était rapporteur fictif pour Heidi quand on a fait la directive salaire minimum, on ne l'a jamais vue. Et quand on a trouvé un compromis, elle est venue dire c'est pas l'Europe de s'occuper du salaire minimum en France, que l'Europe se mêle de ce qui la regarde, ça ne vous regarde pas, c'est une compétence nationale. La seule chose qui sauvera nos concitoyens de la pauvreté, de la précarité, c'est l'État-nation, c'est pas l'Europe. Donc moi je crois qu'on a le devoir d'aller rechercher une majorité large pour faire avancer ces questions-là. Je ne crois pas un instant que l'extrême droite peut, à un moment ou à un autre, être un allié. D'abord parce qu'en fait, ça ne les intéresse pas que l'Europe fonctionne, parce qu'ils continuent à être des eurosceptiques, et ils préservent la primauté des autres nations. Moi, je pense l'inverse. Depuis que je suis député européen, j'ai constaté que quand ça ne fonctionnait pas, ce n'était pas à cause de l'Europe ou du Parlement européen, mais à cause des États, à cause des égoïsmes nationaux. Quand est-ce qu'on n'y arrive pas quand on veut faire du mieux socialement? C'est quand les intérêts de la France ne sont pas les intérêts de l'Allemagne, qui sont en contradiction avec les intérêts du Luxembourg et qui ne correspondent pas aux intérêts de l'Espagne. Et qu'on n'arrive pas à trouver un accord avec le Conseil quand on fait les trilogues. C'est là que ça n'avance pas. Je vais vous prendre un exemple concret. La directive transparence salariale. Son objectif, c'était d'obliger les entreprises à faire la transparence des salaires pour qu'on puisse constater les différences de salaire femmes-hommes et pour aider à la réduction des inégalités salariales femmes-hommes. Donc c'est une idée tout à fait louable, surtout dans le débat société, y compris chez les jeunes aujourd'hui. Cette discrimination n'est pas normale. Moi, en tant qu'écolo, quand on commence à vouloir discuter du texte, nous voulions cette transparence à partir de 10 salariés. Le discussion avec les autres groupes, droite et libéraux, oui, mais contraintes pour les entreprises, toujours les mêmes arguments. Difficultés pour les entreprises, procédures administratives, on va les assommer de bureaucratie, machin. Quand il faut demander des réductions sociales sur les charges, ils trouvent le temps, les entreprises. Quand il faut publier les salaires pour faire la transparence, c'est compliqué. Bon, bref. Le compromis qu'on trouve dans la maison parlement, c'est 50 salariés. Transparence à partir de 50 salariés. On l'accepte. On n'est pas satisfait, mais on l'accepte. Et puis, pendant les discussions avec le Conseil nous dit « Oh, c'est une excellente idée. Vous avez raison. C'est la mère des batailles, l'égalité salariale-femme. On va la faire à partir de 500 salariés. Et à la fin, on l'a faite à partir de 100. Donc, quand ça n'avance pas, c'est pas le Parlement, c'est pas l'Europe, c'est les égoïsmes nationaux, c'est les États-nations.
On peut peut-être rappeler le Conseil, c'est quoi ?
Le Conseil, c'est l'instance, c'est la troisième institution européenne après le Parlement et la Commission qui réunit les chefs d'État ou de gouvernement. Donc c'est les représentants de la France, de l'Allemagne, et sur certaines législations, ils sont co-législateurs au même titre que nous, les 705 députés élus par les peuples européens. Donc ils ont un pouvoir de législation. Une fois qu'on a voté au Parlement, on doit se mettre d'accord sur le texte en question avec le Conseil pour que le texte devienne définitif. Et donc on est passé de 50 salariés dans le Parlement à 100 à cause des États membres. Voilà. Ils se sont mis d'accord en disant on ne va pas alourdir, embêter nos entreprises.
Wunder Parlement.
In Strasbourg.
Est-ce que, à l'instar de collègues eurodéputés de gauche, vous refusez systématiquement tout dialogue avec les députés européens d'extrême droite? Ou bien est-ce que...
Ah mais moi je leur parle pas. Quand je dis je leur parle pas, c'est je leur parle pas. Ça m'est impossible. Quand on écoute leurs discours, quand on comprend leur idéologie, les discours de haine. Alors moi, avant-hier, j'ai une de mes collègues, Karim Adeli, rapportrice sur le directive permis, où un élu du Rassemblement national a mis une députée française entre parenthèses, écologiste. J'espère qu'on va interdire en France les permis algériens. Elle était renvoyée à son origine. On ne peut pas parler avec les semeurs de haine, avec les racistes et les xénophobes. Donc le système démocratique européen fait qu'ils ont le droit de se présenter aux élections et d'être députés. Moi, j'ai aucune obligation de leur parler, donc je ne leur parle pas.
D'accord. Pour être militant aujourd'hui, on aimerait bien connaître Mounir Satouri. Votre parcours, comment ça a commencé? Comment est-ce qu'on finit, on devient député européen? Enfin, qu'est-ce qui est à l'origine de cet engagement?
Oh, je pense que c'est une envie de liberté et de démocratie dès le plus jeune âge. Moi, je me suis... D'abord, j'ai peut-être un parcours singulier. Ma vie a commencé et ma vie militante de l'autre côté de la Méditerranée. Moi, j'ai vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 16 ans, jusqu'en 91. Mon papa était immigré français, comme beaucoup de gens de sa génération. Il est venu travailler en France après la Deuxième Guerre. Mais il n'avait pas fait le choix du regroupement familial et faisait les allers-retours entre la France et le Maroc. Et je me suis engagé pendant la Première Guerre du Golfe. C'était une occasion de beaucoup d'engagement dans le monde arabe des jeunes quand il y a eu cette Première Guerre du Golfe, puisque c'était le rapport Nord-Sud, c'était le rapport Occident-Orient et comment les rapports de force mondiaux se mettent en place. Donc c'était mon premier réveil politique. Et puis j'ai participé à un mouvement de grève de lycéens, j'étais engagé politiquement et puis j'ai été mis en prison pendant 2 mois, poursuivi pour trouble à l'ordre public, condamné à une peine de prison avec sursis. Et puis là mon papa il me dit Il m'a ramené à ses côtés, en fait, pour éviter que je refasse la même chose. Et donc, j'ai vécu en France à partir de 91. Je n'ai été naturalisé français qu'en 2002. Donc, de 91 à 2002, j'ai vécu en France en tant qu'étranger en situation régulière. Et par contre, la passion et de l'engagement collectif et de la politique a toujours été là. C'est une histoire d'engagement. Moi, j'avais ni prévu ni rêvé d'être élu député européen. Ce que je ne suis pas devenu, j'ai été élu député européen. J'espère être toujours le même homme avec les mêmes convictions. J'ai fait ma vie en France. D'abord, j'ai fait le choix de faire ma vie en France et de devenir français et citoyen de cette République. J'ai été élu local, municipal, régional et j'ai été candidat aux élections européennes en 2019. Pas forcément en position éligible au moment où les listes se font, hein, parce que les sondages nous donnaient beaucoup plus bas que le score qu'à la fin on a fait. Et puis j'ai été élu en 2019 député européen, et ça fait maintenant presque 5 ans que j'occupe cette responsabilité avec à la fois plaisir. On a vraiment, quand on est député européen, on a vraiment le sentiment de servir à faire avancer les choses, même si le temps est long, entre le moment où on produit une législation, où elle devient une réalité concrète pour nos concitoyens, et il peut se passer du temps. Même si, par exemple, sur la simplification des fonds européens, l'aide aux plus démunis, le FSE+, au moment de la crise de la Covid, l'Europe a su faire vite pour simplifier l'accès à ces fonds, parce que beaucoup de nos concitoyens mouraient de faim, enfin, crevaient de faim à cause de la précarité qui est née à ce moment-là. Mon bilan de ce mandat est toujours mitigé, parce que j'ai le sentiment que sur plein de dossiers, on a fait avancer l'Europe sociale, mais que tout ne se voit pas encore et qu'il ne se verra que les prochaines années.
Wunderparlement
in Strasbourg.
Alors l'Union européenne, c'est pas toujours facile à comprendre pour les Français, les Françaises et le reste du monde non plus. La politique, de façon générale, c'est malheureusement aujourd'hui quelque chose qui n'attire pas forcément les jeunes, qui sont parmi ceux qui votent le moins, et ne parlons pas des jeunes d'origine étrangère, dans les quartiers populaires, où l'abstention bat souvent des records. Alors, mais comment est-ce qu'on peut agir face à ça? Comment convaincre des jeunes, et pourquoi pas des moins jeunes d'ailleurs, mais de l'intérêt de voter, de l'intérêt de s'engager, de la possibilité réelle de changer la vie avec la politique?
Oui, je vais commencer par pas. Donc vous avez raison, hein, l'Europe paraît lointaine de nos concitoyens. Mais avouons ensemble, avouez avec moi, que tout est fait pour que l'Europe ne soit pas présente. Je vais vous prendre un exemple. Ça vaut ce que ça vaut, mais pour faire connaître ce qui se passe à l'Assemblée nationale et au Sénat en France, la télévision publique a des chaînes pour montrer à voir ce qui se passe. Rien n'est fait pour l'échelon européen. Alors qu'on pourrait avoir, je ne réclame même pas une chaîne dédiée, mais des plages horaires dans chacune de ces deux chaînes-là, où on fait parler des députés européens, on parle des textes qui sont votés au Parlement européen, etc. J'ai dit tout à l'heure que j'avais travaillé sur le texte, sur la directive salaire minimum. C'est quand même une directive qui va changer la vie de plus de 25 millions de travailleurs en Europe, qui va participer à réduire la précarité au travail, à rapprocher l'inégalité salariale-femme. Enfin, ce n'est pas un petit texte. Il y a eu trois phrases dans les articles de presse. Aucune chaîne d'information n'en a parlé. Donc oui, l'Europe paraît lointaine de nos concitoyens, mais avouons que rien n'est vraiment fait de manière concrète pour la rapprocher. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, je pense qu'on a, nous, les responsables politiques, les élus, les partis politiques, une responsabilité d'adaptation de nos discours pour qu'ils touchent toutes les catégories sociales, tous les quartiers, qu'on a un rôle et des efforts à faire. Donc là, je fais un peu notre autocritique, mais je crois que le monde médiatique participe grandement à donner soit une mauvaise image de la politique, parce qu'on parle de la politique quand il y a des affaires, quand il y a des scandales, et jamais au quotidien quand il y a des choses positives. Et puis, on a vu ces 10 dernières années, en France en tout cas, de manière assez singulière, l'avènement de chaînes d'information qui font la promotion de l'extrême droite et de toutes les idées nauséabondes qui divisent, qui stigmatisent. Et ça, c'est un danger, pas pour la politique, hein, mais pour la République et pour le pacte social dans notre pays. Donc il y a des choses que nous, on doit changer en termes et de mobilisation et d'adaptation du discours. Et on doit aller beaucoup plus sur le terrain et on ne doit pas faire campagne que lorsqu'il y a des élections. Il y a des choses que les partis politiques et les acteurs politiques doivent faire. Mais il y a des changements structurels que, en tout cas sur l'Europe, pour qu'elle soit au moins aussi visible que les autres institutions que doit faire chacun des États membres. Et puis après, il y a le débat politique du siècle entre universalisme et repli sur soi. le vrai combat, c'est celui-là. Moi, je suis un universaliste et je le resterai.
Wunderparlement
in Strasbourg.
Oui, mais il faut peut-être aussi parfois, Mounir Satouri, accepter les élections. Et qu'est-ce qu'on fait quand les élections nous donnent tort, le Front National? Qu'est-ce qu'on fait? Les prochaines européennes risquent fort, tous les sondages le disent, d'être gagnées par le Rassemblement National. Si on se projette en France, on risque aussi d'avoir l'extrême droite au pouvoir. Est-ce que si le verdict des urnes amène l'extrême droite au pouvoir?
À aucun moment, j'ai remis en compte le verdict des urnes. Je vous ai dit que je fais le choix de ne pas leur parler. Ça continue, j'espère, que ça va continuer à rester mon droit. On est d'accord?
Bien sûr.
Au moment de l'élection, en fait, je ne me pose pas l'enjeu des européennes comme vous le posez. C'est ni le RN qui va gagner, ni LREM, ni les Verts. L'enjeu, il se fera au niveau européen. Une fois que chaque État membre a renvoyé les délégations des différents partis, c'est de dire où se situe la majorité. Moi, je travaillerai, si je reviens au mandat prochain, à faire en sorte qu'il y ait une majorité où l'extrême droite ne pèse pas. Mais si demain, le PPE et d'autres groupes font choix de constituer une majorité avec l'extrême droite, avec le groupe AID, le groupe ECR, et de peser pour désigner une présidence de commission, ben, je serai dans l'opposition. Qu'est-ce que dans mes propos vous permet de dire que je n'accepte pas la démocratie?
J'ai pas dit ça.
Les écologistes ne seront jamais ni en partenariat, ni les alliés de l'extrême droite. Nous portons des imaginaires et des projets radicalement différents. Donc, nous nous battrons pour qu'ils fassent le plus mauvais score, et pour que nous on fasse le meilleur score, et pour qu'à la fin, il y ait une majorité progressiste et humaniste à la tête de l'Europe. Quant aux prochaines élections nationales en France, oui, aujourd'hui je regarde les sondages comme vous, la candidate de l'extrême droite Marine Le Pen est plutôt bien placée, mais c'est ce qui doit nous obliger à nous, les humanistes, les progressistes, la gauche et les écologistes, à éviter ce scénario. Vous savez, aujourd'hui les sondages donne aux Européennes, M. Bardella, à 30. Moi, j'ai toujours cru qu'en étant sur des listes séparées, chaque composant de la gauche et des écologistes peut mobiliser ses électeurs. Mais rassembler, mon objectif, c'est qu'on fasse au moins 35% et qu'on vienne en nombre au Parlement européen pour éviter qu'il y ait une majorité PPE, AID, ECR. Et pareil pour les élections nationales. L'histoire n'est jamais écrite. À nous de créer les conditions et de rassemblement, les conditions de projet et de mobilisation pour qu'on évite que la patrie des droits de l'homme soit dirigée par l'extrême droite. Et c'est un enjeu qui ne sera pas simple, mais il est hors de question pour moi, jamais je me résignerai, que je considère qu'il est perdu d'avance.
On rappelle que les élections européennes ont lieu en France le 9 juin 2024. Peut-être l'occasion de faire aussi un retour sur la mandature passée. Hein. Mounir Satouri, vous êtes élu depuis 2019 au Parlement européen. Quels sont les dossiers sur lesquels vous vous êtes battu et comment ça s'est passé?
Quand vous dites, vous, Mounir Satouri ou le groupe Vert? Allez, on va, puisque c'est un entretien assez intime, j'ai parlé pour moi.
Wunderparlement.
In Strasbourg.
Un des premiers textes sur lequel j'ai travaillé, c'est le fonds de transition juste. C'est un nouveau fonds européen. Je vais l'expliquer en détail. Aujourd'hui, les fonds structurels européens, c'est ce que sur la question sociale permet de faire les choses les plus concrètes. Il n'y a pas de mission locale en France qui fonctionne sans l'aide financière du fonds social européen. Dans beaucoup de territoires, il n'y a pas d'équipements publics, gymnases, stades, bibliothèques, médiathèques, qui sont construits sans le concours financier du FEDER, du fonds européen. Moi, je suis écolo, je suis plutôt engagé sur les questions sociales. Et j'ai participé à l'avènement d'un nouveau fonds qui s'appelle le Fonds de Transition Juste. C'est un fonds qui s'adresse dans les régions qui ont une économie à prédominant charbon et énergie fossile pour aider à la transition écolo. Nous, on veut qu'il y ait moins d'émissions de gaz à effet de serre sur tes territoires et moins d'énergie fossile. Mais la transition ne se fera pas seule. Et donc, ce fonds, c'est 17 milliards sur la législature pour permettre aux entreprises de modifier leur appareil productif pour produire autre chose et dans des industries non polluantes. Mais je ne me suis pas contenté de ça, et c'est ce que j'ai apporté, ça a été ma signature politique. J'ai dit très tôt que ça ne suffit pas d'aider une entreprise à changer chez machine, parce qu'il faut former les salariés, Il faut peut-être les accompagner en termes d'aide à la mobilité pour qu'ils aillent se former, voire aider à la création sur les territoires de centres de formation. Donc il y a la question de la formation, de la mobilité, de l'aide sociale. Il y a ceux qui travaillent aujourd'hui qui doivent adapter leurs compétences, mais ceux qui ont été exclus de l'emploi ces 10, 15 dernières années. Et donc une transformation, la transition d'un territoire, c'est aussi prendre compte ceux qui ont été exclus pour qu'ils puissent retrouver un emploi et de nouvelles compétences. C'est peut-être l'aide à la garde d'enfants pour que la reconversion professionnelle ne concerne pas que les hommes. Et donc, j'ai introduit une capacité de financement des infrastructures sociales dans ce fonds européen. Et je pense qu'il faut continuer à cibler des politiques concrètes. Après, encore faut-il que ça se sache. Mais ça, c'est très concret. Qu'on demain, grâce au fonds de transition juste, une entreprise qui aurait fermé, si elle n'avait pas muté, si elle n'avait pas changé, des salariés qui seraient retrouvés au chômage s'ils ne s'étaient pas formés, quand on aura un ESOP qui fonctionnera, et que nos concitoyens sauront que c'est grâce à l'Europe, ça changera les mentalités, y compris dans ces zones où le chômage est fort et qui votent souvent l'extrême droite, que ce soit en France ou ailleurs. Donc pour moi, non seulement c'était un outil qui pouvait permettre d'accélérer la transition et de faire en sorte qu'elle soit juste, mais quelque part aussi un outil qui peut lutter contre le repli sur soi et la montée des idées de l'extrême droite. Donc c'était pas un petit sujet.
Et donc c'est effectif aujourd'hui ?
Oui, oui, bien sûr. Aujourd'hui, en France par exemple, dans les Hauts-de-France, il y a des entreprises qui sont accompagnées dans la transition écologique grâce au fonds de transition juste. Alors ça fera masse au bout de quelques années, mais la démarche est déjà en cours. Et ça intervient en France, mais aussi dans les autres États membres, et c'est une très très bonne chose. Moi j'aurais souhaité que on n'est pas 17 milliards, mais qu'on monte à 44 milliards. Et puis le plan de relance est passé par là. Le fonds de transition s'était raboté comme d'autres fonds. Mais au moins, le débat existe. Elle est importante, cette notion de la transition juste. Parce qu'on a souvent accusé les écolos d'être pour une transition qui détruit les emplois. Alors même que c'est le système libéral et productiviste qui a créé beaucoup de chômage ces 30 dernières années. Et la transition juste réconcilie les enjeux écologiques, sociaux et économiques.
Vendeur Parlement.
In Strasbourg.
Alors si on a envie à nouveau de traverser la Méditerranée, je crois que dernièrement vous avez fait partie d'une délégation qui devait visiter la Tunisie. Je suis pas sûr que vous ayez eu le droit de rentrer.
Vous pouvez même être sûr du contraire.
Est-ce que pour ceux qui n'ont pas forcément suivi toutes les négociations et ce qui s'est passé entre l'Union européenne et la Tunisie, quelle est la relation de l'Union européenne avec la Tunisie et qu'est-ce qui est en place et est-ce que ça correspond aux valeurs que vous portez, les négociations et les contrats qu'on signe avec les pays du Maghreb pour empêcher les migrants d'arriver jusqu'en Europe ?
D'abord, on n'est pas à la hauteur. La Tunisie, depuis 2011 et le printemps arabe, était le dernier pays où la transition démocratique pouvait être une victoire. On était plein d'observateurs occidentaux, européens, à être attentifs à la réussite de la transition démocratique et à la révolution tunisienne. Et pendant cette phase de transition, en termes de soutien économique, en termes d'appui, en termes d'accompagnement, y compris de l'apprentissage démocratique, on n'a pas été à la hauteur. On n'a pas été au rendez-vous. Et puis un jour, un système autocratique se met en place. Il faut rappeler ce qu'est le régime de M. Kais Saied aujourd'hui. Quelques semaines après sa désignation, des chars, pour de vrai, encerclent le Parlement. Le Parlement est dissous. Les juges sont renvoyés. Les maires sont relevés de leurs responsabilités. C'est ça, le régime. Et avec la Tunisie, comme avec d'autres pays, on a des accords de partenariat. On a signé des accords de partenariat avec des objectifs, des moyens, des conditions, et notamment, dans tous les accords écrits qu'on signe, la conditionnalité, respect du droit humain, de la démocratie, des valeurs européennes sont inscrites. Ce n'est pas une invention des écolos de Mounir Satouri, mais c'est l'habitude européenne. Et bien, il y a quelques semaines, Mme van der Leyen et M. Varili ont décidé, en dehors de ce cadre, de signer avec M. Kais le versement de 150 millions d'euros en vrai argent versé sans conditionnalité sur le compte du Trésor, 900 millions d'euros de soutien macroéconomique, je crois qu'il avait compris. Ma crainte, c'est que M. Keyes ait compris que c'était une subvention. En fait, c'est des emprunts conditionnés pour la relance économique et c'était conditionné à la signature avec le FMI. Et donc, il a eu le sentiment d'avoir gagné le milliard. Et en dehors des clauses de respect de droits humains, de la démocratie, etc. Et à la même période, des propos racistes et xénophobes contre les migrants subsahariens qui amènent à des ratonnades dans les rues, enfin, un vrai scandale. Et un emprisonnement de tout ce qui ressemble à un contradicteur politique ou un opposant. Et dans ce contexte-là, on signe. En dehors du cadre, sans débat, sans respect du Parlement européen, on signe avec comme seule contrepartie de bloquer les migrants de l'autre côté de la Méditerranée. Et ça, si quelque chose pouvait me mettre hors de moi, c'est bien ça. Ça s'est retourné contre eux, parce qu'à la fin, comme l'argent qu'il a cru attendre n'était pas au rendez-vous, il a fini par renvoyer 60 millions en leur disant « je n'ai pas besoin de votre charité ». Et nous, comme parlementaires, on avait, c'est la première fois de l'histoire que ça arrive, une délégation officielle de la Commission Affaires internationales devait se rendre sur place. Alors ils disent qu'on ne les a pas informés, en fait c'est faux, ça faisait des semaines que des discussions via l'ambassade de l'UE sur place étaient en contact. On devait faire une visite, on allait rencontrer à la fois les représentants de l'État, le Premier ministre, le ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères, mais aussi des opposants politiques, le syndicat UGTT, des acteurs de la société civile. Et tout ça a été annulé du jour au lendemain parce que nous étions un certain nombre de parlementaires à oser critiquer cet accord Team Europe que Mme van der Leyen avait signé avec Keyes et à critiquer la nature du régime. Quand l'Europe contractualise avec des dictateurs sans le respect et de nos valeurs et des cadres qui sont les nôtres, je trouve que ça ne nous grandit pas. On n'est pas à la hauteur quand on fait ça. Mais alors on ne le fait pas qu'avec M. Keyes, on le fait avec plein d'autres. Mais c'est dommage.
Mais justement, cette question des migrations qui anime les débats européens depuis des années et des années, et ça risque de se poursuivre. Alors, il n'y a sans doute pas de solution miracle, mais la politique actuelle qui consiste en gros à payer des pays...
Elle ne marche pas, cette politique.
Voilà, mais quelle solution, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ?
Elle ne marche pas. D'abord, nos dirigeants ignorent que les conditions dans lesquelles vivent, parce que la Tunisie est un pays de transit pour la migration, mais c'est aussi un pays de départ. Et ça, c'est récent. Je ne comprends pas que nos dirigeants ne fassent pas le lien entre la tournure qu'a pris le régime, sa dureté, et le fait qu'on commence à avoir des Tunisiens et des Tunisiens qui traversent. Et donc, quand on soutient un dictateur, on provoque aussi un mouvement de migration. Et donc, aucun mur, aucun barbelé ne peut éviter à quelqu'un qui pense que prendre le risque de mourir au milieu de la Méditerranée est moins risqué pour sa vie que de rester. Il faut que les Européens se rendent ça en tête. On ne parle pas des gens qui prennent un avion en première classe pour venir en Europe. On parle de quelqu'un qui se dit, pour ma vie ou pour celle de mes enfants, c'est moins risqué de monter dans un bateau de fortune en prenant le risque de me noyer au milieu de la Méditerranée que de rester ici. Tant qu'il y a ça, on n'empêchera pas des personnes d'avoir envie de partir. Et j'affirme que plus de démocratie, des politiques de coopération beaucoup plus équitables, parce que quand on coopère avec les pays de l'autre côté de la Méditerranée, c'est d'abord dans l'intérêt de nos entreprises, y compris quand on subventionne. La contrepartie, c'est que les entreprises européennes doivent avoir les marchés. Donc, une autre politique de coopération, une autre politique de co-développement, un soutien aux démocraties. Enfin, si c'est bon pour nous, il n'y a pas de raison que ce soit bon. Pas bon pour les autres. Parce que j'ai la faiblesse de croire que quand on vit en sécurité et correctement, un minimum dans la décence chez soi, on n'a pas forcément, on n'a pas du tout envie de prendre le risque de mourir pour passer de l'autre côté. C'est cette transformation radicale qui empêchera les gens d'avoir envie de partir. Sinon, ça ne marchera pas. Tant qu'ils penseront qu'en traversant, ils prennent moins de risques qu'en restant, ils viendront. Et donc, on peut faire ce qu'on veut, ils continueront à vouloir venir. Et donc, il faut changer de manière radicale le paradigme dans notre regard sur ce pays. Je vais vous donner un exemple. On parle de la crise agricole en France et en Europe. Est-ce que vous vous rendez compte que le blé européen, français, francilien même, bourré de pesticides et dopé aux subventions de la PAC, arrive en Tunisie et au Maroc moins cher que le blé local? Et donc, quand on envoie notre blé bourré de pesticides et bourrés et dopés de subventions de la PAC, on détruit des emplois sur place. Et un jour, un agriculteur n'arrivant plus à vivre de ses 10 hectares parce qu'il a beau trimer comme un malade et lui n'a pas la PAC hein, pour être aidé, il n'arrive pas à vivre sans blé avec un seul rentabilité, il finit par tout abandonner, par vouloir traverser. Parce que s'il ne le fait pas, ses enfants meurent. Donc qu'est-ce qu'il se dit ? Je préfère prendre le risque de mourir que de laisser mes enfants mourir sous mes yeux. Et donc peut-être que si on demandait aux céréaliers franciliens de rembourser l'aide de la PAC sur la partie du blé qui est exportée au Maghreb, que le blé n'arrivera pas forcément moins cher, que l'agriculteur en question continuera à vivre de son travail et de sa terre, et qu'il n'aura pas envie de traverser la Méditerranée. C'est qu'un exemple parmi d'autres. Mais c'est un exemple réel.
Et pour autant, les agriculteurs ne sont pas forcément heureux de la politique agricole.
Mais pas les agriculteurs. Certains, ils le sont. C'est ça qui est terrible avec l'agriculture. C'est qu'on met dans l'agriculture plein de choses. On y met le maraîcher qui a 3 hectares et qui demande à vendre en direct sa production pour se sortir un SMIC, lui et son épouse. Et on mélange le céréalier qui a 350 hectares, qui a les moyens d'acheter 10 tracteurs et qui spécule à la bourse, à l'année, et qui se dit cette année, je mets du blé ou du maïs, ça va dépendre des prévisions du cours du marché international. Et la prévision du cours du marché international me dit que le blé sera à 200 $ la tonne, alors que le maïs sera à 300, et donc j'ai intérêt à mettre le maïs et à pomper tout l'eau de la nappe phréatique. Ces deux personnes n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc il n'y a pas une agriculture, il y a des agricultures, il n'y a pas un agriculteur, il y en a plein. Certains se crèvent au travail en touchant très peu d'argent, et il faut qu'on les aide, et il faut qu'ils aient un maximum d'argent de la PAC. D'autres gagnent très 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 bien leur vie, tout en polluant et en exploitant les autres. Et ceux-là, ils n'ont pas besoin qu'on les aide.
Oui, mais le dialogue entre les écolos et la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire, ne fonctionne pas.
Au niveau national, peut-être, c'est peut-être vrai, et encore, au niveau national, parce qu'en réalité, les dirigeants sont ceux qui travaillent, enfin, qui dirigent, des grands dirigeants de l'industrie agroalimentaire, mais au niveau départemental, c'est différent, parce que c'est très divers, la FNSEA. Avec d'autres syndicats, le dialogue existe. Alors, on n'est pas d'accord sur tout, mais on n'est pas non plus en désaccord sur tout.
Wunder Parlement.
In Strasbourg.
Alors, on se rapproche de la fin de ce Wunder Parlement. Alors, j'ai une question aussi qui me traverse l'esprit. Je ne sais pas si vous avez envie d'y répondre, mais quand je pense Maroc, premier producteur mondial de haschich, et avec notre Allemagne juste à côté, qui est en train de légaliser cette drogue que certains qualifient de douce, qu'est-ce que le groupe écolo, le Parti des Verts, ou vous, Mounir Satouri, qu'est-ce qu'on fait avec cette drogue à fumer? Est-ce que on la légalise? Est-ce que l'Europe a un rôle à jouer là-dedans? Ou est-ce qu'on regarde les choses se faire et puis les Allemands légaliser?
Allez, les écolos sont clairement pour la légalisation du cannabis. Pour une raison simple, c'est que les politiques les plus répressives contre les cannabis n'ont pas permis de baisser la consommation, au contraire. La France est sans doute un des pays les plus répressifs. Et la consommation augmente année après année. Et dans le fait de ne pas légaliser, il y a la non-maîtrise de ce que fument nos concitoyens, y compris les jeunes. Le fait que ce soit illicite et des filières clandestines, ce produit est coupé avec tout et n'importe quoi, y compris avec des dangers importants pour la santé. Donc, vaut mieux encadrer cette pratique qui existe et de l'encadrer de manière forte. Hein. Il faut que ce soit un débat démocratique et un choix législatif, que de continuer à faire la politique de l'autruche, à éviter de regarder la réalité et à laisser nos concitoyens, jeunes et moins jeunes, être exposés à tout et n'importe quoi quand ils fument. Donc on est clairement pour un encadrement par la légalisation, oui.
Et donc l'Union européenne, le Parlement européen n'ont aucun pouvoir en la matière ?
Jamais creusé la question. Mais c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je vais regarder.
D'accord, bon ben donc en attendant, allons découvrir les joies du cannabis, mais il faut aller dans un pays où c'est légal.
Là vous caricaturez. Moi je n'ai pas incité à fumer le cannabis. Et j'ai pas dit que mon modèle et mon rêve dans la vie était que les gens soient consommateurs de cannabis. Je dis, il y a aujourd'hui une réalité. La consommation de cannabis dans tous les États européens est une réalité. Dans les États membres les plus répressifs, ça n'a pas permis de baisser la consommation. Et que le fait que ce soit illicite fait que c'est beaucoup plus dangereux que si c'était contrôlé. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein.
Non, non, je voulais juste dire, allons fumer du cannabis dans un pays où c'est légal.
Ah, ok.
Voilà. Donc, loin de moi de provoquer une illégalité quelconque.
Alors, j'ai la dernière question pour finir notre interview. On a déjà dit qu'il ne faut pas utiliser des drogues pour la jeunesse. Est-ce que vous avez un message pour la jeunesse concernant, pour des gens qui veulent se lancer à politique? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous recommandez à ces gens?
Emparez-vous des enjeux politiques. Emparez-vous de ces enjeux comme vous voulez, de la manière dont vous voulez. Évidemment, pour celles et ceux qui veulent s'engager, être élus, vous devez venir chercher vos places. Vos aînés doivent être forcés à vous laisser la place. Parce qu'en fait, on parle de votre avenir. Mais engagez-vous dans les discussions. Il y a mille et une manières aujourd'hui de s'engager. On signe des pétitions en ligne, on participe à des rassemblements, on soutient des causes qui nous sont chères. Moi, c'est tendance parfois à voir les gens de ma génération dire « aujourd'hui, c'est pas comme avant. Avant, on était beaucoup plus investis. » En fait, non. Les modes d'investissement et d'engagement changent. Il y a un chiffre, moi, qui me glace. Aujourd'hui, on n'est pas capable de garantir à des enfants qui naissent cette année de la viabilité de leur planète dans 30 ans. Le jour où ils auront 30 ans. Donc en fait, ces enjeux-là vous concernent d'abord vous. Et donc, engagez-vous avec la forme que vous voulez, au degré que vous voulez, là où vous voulez, mais engagez-vous.
C'était Mounir Satouri, eurodéputé du groupe des Verts. Merci que vous êtes venu chez nous. Merci à mon collègue Jean-Luc.
Et merci pour l'invitation.
C'était Radio WNE, Bundesparlement.
Wunderparlement.
Bundesparlement.
Yes, do you have my voice?
Wunderparlament.
Apprendre à faire de la radio.
Il Presidente.
Uccia Radia.
Apprendre à faire radio.
Leer radio maken.
Chaque mois au Parlement européen à Strasbourg.
En el Parlamento Europeo de Strasburgo.
Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Czekamy na ciebie.
In Strasbourg.
Toi aussi, tu peux venir.